Les Canadiens moyens connaissent la science, mais comme Jeff l'a dit, ils veulent que ça soit noir ou blanc. Et chaque sondage nécessite ce que ne connaît. Il faut avoir plus de recherches. Le fait que nous, on est basé sur la science, ça complique les choses. Les gens aiment ce qui est libre, naturel, comme dans le bon vieux temps. Alors, la tarte aux pommes, le bon vieux temps, tout le monde adore cela. Très peu de personnes ont le contexte du bon vieux temps pour le comparer aujourd'hui. Et ça devient très évident pendant les conversations. Moi, j'étais élevée à la ferme. Près d'ici, je vais rentrer chez moi, je suis très heureuse. J'ai été élevée sur une ferme laitière, mais nous avions 20 truies aussi. Et j'étais un des employés. Alors, je nourrissais ces truies. Nous gardions nos truies dans un coin avec une lampe chauffante. Et vous me voyez, j'ai 8 ans avec mon papa. Il doit donner aux porcelets leurs injections de fer. Et il a un panier d'un boisseau. Il arrive dans le cajou avec cette truie. Et cette truie, il met les cochonnets, les porcelets. La truie essaye d'attaquer mon père. Il met le panier devant elle. Elle a tué plusieurs porcelets parce qu'elle essayait de mordre mon père. Alors, c'était un traumatisme. On a sauvé quelques porcelets. Combien de personnes ont ce contexte aujourd'hui lorsqu'on parle des cages ou des cajous? Ils ont le contexte de Disney. Ils ont regardé Babe et Wilbur. Ils n'ont pas ce contexte que j'ai. Donc, c'est une des complications, mais les gens adorent les animaux. Et comme ceux qui travaillent 365 jours par an dans la grange, les gens ne veulent pas se sentir coupables devant le contenu de leur assiette. Ils veulent avoir un bon steak, du lait ou du vin et amener leurs enfants au soccer. Ils ne veulent pas se sentir coupables. Lorsqu'ils entendent parler de ces histoires, ils disent non. Qu'ils ne veulent pas se sentir coupables. Bon, je peux parler beaucoup de cela, mais nous avons travaillé avec Ipsos pendant de nombreuses années, depuis 1990, pour voir ce que le public pense de l'agroalimentaire. C'est un travail très important. Nous avons beaucoup d'anecdotes, des conversations. Oh, j'ai rencontré quelqu'un à la Royal. Il m'a demandé des questions sur la castration des porcs. Et nous avons des anecdotes, mais nous travaillons avec Ipsos pour une raison. Ils sont très professionnels. Comment est-ce qu'on peut structurer des questions pour que ce ne soit pas Crystal qui dise « voici ce qui m'inquiète », mais ayons un sondage honnête. Et c'est pourquoi nous travaillons avec ce groupe de marketing. Depuis 1990 jusqu'à 2009, nous avons parlé de l'environnement, de la biotechnologie et des questions de sources d'information et de crédibilité. C'était les questions dont on voulait parler. Cette dernière année, il y avait une approche évolutionnaire. Et nous avons eu le nouveau mot « durabilité ». Et c'est ironique pour moi, l'université, en première année, j'ai entendu le mot « durabilité » pour la première fois. Je pensais que c'était de bonnes pratiques. Et ensuite, j'ai entendu parler de durabilité pour 4 ans et demi. J'étais à 100% dans les pubs, pour ceux d'entre vous qui connaissaient Guelph. Mais j'ai entendu beaucoup parler de durabilité pendant 4 ans. Ensuite, rien du tout. Et maintenant, c'est revenu à la mode. Donc, cette année, nous avons décidé de prendre notre étude et avoir une conversation avec les Canadiens pour parler de la durabilité des aliments. Nous voulions parler pas seulement de l'environnement, mais de toutes ces idées, de voir ce qui allait arriver. Voici les 5 principes de durabilité tels que développés par un centre aux États-Unis. Salubrité des aliments, santé, bien-être, environnement, économie et abordabilité des aliments, aliments et santé. Combien pensent que l'environnement, c'est la première priorité? La santé et le bien-être, la salubrité. La santé, le bien-être, l'économie et l'abordabilité des aliments. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas lever la main. Donc, voici ce qui s'est vu dans ce classement. Alors, le bien-être des animaux est en dernière place. C'est au 5e rang. Lorsque nous avons une conversation équilibrée, on leur a imposé de donner une cote. Est-ce que le bien-être est important? La salubrité, oui, l'environnement. Mais lorsqu'on les force à donner une cote, la santé et la salubrité a toujours été en premier. Donc, il ne faut pas oublier que nous voulons la santé, la salubrité, l'abordabilité, l'environnement et ensuite le bien-être. Nous avons eu un forum de 2 jours à Guelph en février avec nos partenaires, un jour sur le bien-être et l'autre sur l'environnement. C'était des producteurs, le gouvernement et des intervenants. Et nous avons eu des petites machines à cliquer. On a demandé au groupe quel est le sujet le plus important. Ce groupe-là a dit le bien-être, le jour de l'environnement. On leur a demandé, pour vous, quelle est la question la plus importante? Donc, ce groupe avait évidemment choisi l'environnement. Mais de votre perspective, pendant 2 jours, nous sommes ici, nous sommes passionnés du bien-être. Et lorsque nous parlons au public, on ne veut pas être à l'arrière. On veut mettre tout cela en perspective. Lorsqu'on parle de du logement détruit, comment est-ce que cela a un impact sur l'environnement, sur la salubrité, sur les aliments et la santé, et l'économie et l'abordabilité? Je dis que peu importe si ça coûte 30 $ le livre, quelqu'un veut des truies mauves avec des petits pois, peu importe. Et on ne se demande pas si un aliment va rendre nos enfants malades. Et nous sommes privilégiés d'être dans cette situation. Maintenant, 56% des Canadiens sont plutôt positifs. C'est le plus élevé, le pourcentage le plus élevé depuis 1990, avec 32% qui sont ni positifs ni négatifs. 56%, ça dirait, a besoin d'amélioration sur votre bulletin de notes. C'est le plus haut que ça a été, mais le jaune, 32% ne sont pas sûrs, sont dans le milieu. Vous pouvez amener une question sur l'environnement, le bien-être, et vous verrez ce pourcentage identique qui ne savent pas. C'est un tiers de notre population qui disent qu'ils ne sont pas certains. Maintenant, pour vous montrer les données provinciales, vous diront que sur 20 ans, notre pays est devenu un pot pourri, plus uniforme. Mais avant, il y avait des grandes différences. Mais maintenant, vous voyez qu'il n'y a à peu près pas de différence d'une région à une autre. Mais que vous soyez en Colombie-Britannique ou à l'île du Prince-Édouard, les gens pensent pas mal de la même façon. Et les différences entre le rural et l'urbain. Lorsque nous avons commencé ce travail, on disait les gens de la ville ne comprennent rien. Les différences entre le rural et l'urbain ont disparu en 2006. Et maintenant, parce que quelqu'un habite à côté de ma ferme et qu'il passe à côté chaque journée, ça ne veut pas vraiment dire qu'il comprenne ce que je fais ou pourquoi. Est-ce que les gens sont bien informés? 2% connaissent l'agriculture. 93% des Canadiens disent qu'ils connaissent peu ou rien à l'agriculture. Et des types de fermes précises, vous trouverez tout cela sur notre site web. Ici, que vous soyez un producteur laitier qui dépense beaucoup d'argent sur le profil et le marketing, ou un producteur de veau, les gens en connaissent un petit peu sur le laitier, mais les gens ne savent pas beaucoup. Est-ce qu'ils veulent en savoir davantage? 60%, presque deux tiers des Canadiens disent oui, qu'ils veulent mieux connaître les pratiques agricoles. Donc, c'est un pourcentage encore une fois élevé par rapport à la norme. Et on leur demande, est-ce que vous voulez en apprendre davantage? Est-ce que vous pensez que ce serait un pourcentage plus élevé? Seulement 20% veulent apprendre davantage. Et je disais que ça me blessait personnellement toute ma carrière est en fonction de 20% de la population. Est-ce que vous voulez en apprendre davantage sur la fabrication de l'acier? L'important, c'est que ma voiture démarre. Alors, la même chose pour l'agriculture. Ils ne veulent pas un diplôme en agriculture. Et j'ai un message à ceux qui travaillent en communication. Nous essayons de donner aux gens un doctorat et ils nous demandent à quel moment est-ce que la vache va donner son lait. Nous parlons de cortisol et il faut avoir la base en premier. Les tendances et les attitudes, voilà des exemples de... Est-ce que c'est crédible ce qu'on dit? Le bien-être animal, c'est un message commun. La priorité absolue d'un éleveur est le soin et le bien-être de ses animaux. 56%, 24% croient que les animaux ont les mêmes droits que les humains. Donc, oui, le bien-être, c'est une grande priorité pour les producteurs, mais il faut montrer que vraiment ça nous importe. Et c'est exactement le même message que Jeff. Ensuite, pour travailler avec un groupe comme Ipsos, pour avoir une étude crédible, nous avons parlé de critiques spontanées. Nous ne leur avons pas donné une liste. Nous leur avons demandé « Qu'avez-vous entendu sur le bien-être des animaux ?» Et 47% disent qu'ils n'ont pas de critiques. Et Ipsos dit qu'il n'y a pas d'urgence. La surpopulation des animaux, lorsqu'on parle de foresterie ou d'autres industries, il y a ça revient à ceux qui ne sont pas certains, mais ils sont... C'est quand même quelque chose que nous examinons. La télé, les médias sont la principale source de l'information. Je pense que l'Internet va devancer les médias, mais la télé et les médias, c'est toujours les premiers. L'Internet devient en premier lorsqu'il s'agit d'âge. Ceux âgés de moins de 35 ans vont en ligne, mais ils vont peut-être voir le Globe and Mail en ligne. C'est quand même des médias. Et comme j'ai dit, ne demandez pas à Google. Il y a un rancher, Hadrix, du Montana. Google n'a jamais aidé un producteur. Les plus jeunes vont en ligne. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent la courbe de ceux qui adoptent et ceux qui sont en retard. Les innovateurs vont en ligne en premier. Ils cherchent de l'information plutôt que les gens qui s'assoient dans leur lazy boy et qui disent « Ah, c'est intéressant ». Pour nos amis comme Sonia, ici aujourd'hui, les détaillants viennent en haut de la liste, près de l'information, pour une source d'information sur l'agroalimentaire et ensuite les producteurs à côté des détaillants. Voici une diapo qui est très importante pour ceux d'entre vous qui dormez. Réveillez-vous. Les impressions sur les sources d'information agroalimentaires, ils vont à qui écoutent-ils? Avec qui veulent-ils avoir une conversation? Et c'est très important. C'est le pourcentage le plus élevé que nous avons reçu sur cette question. Le public voit les agriculteurs très près, aussi près que de leurs amis, de leurs familles. Ils ont une cote plus élevée que ceux des professionnels de la santé. Donc, c'est vraiment, ça témoigne de nos efforts. En résumé, qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons tout garder en perspective parce que nous sommes tellement au courant de notre industrie, nous-mêmes, et ceux d'entre vous qui ont les coupures de presse, on devient un peu trop attaché à ce qui est écrit dans cela et on dit, bon, le bien-être, on voit ça partout. Mais c'est parce qu'on reçoit 100 coupures de presse qui vous sont envoyées sur un sujet. Donc, ce type d'étude est important pour que je reste les deux pieds sur la terre. Alors, ceux qui vont chercher leur café chez Tim Hortons ne sont pas préoccupés du bien-être des poules. Cette recherche confirme l'importance et l'utilité de communiquer et d'avoir une conversation positive sur l'alimentaire. Il faut avoir une conversation sensée sur la façon dont nos aliments sont produits avant que ça devienne une crise. Et pour le faire, nous devons tout mettre en perspective. Parlons du bien-être des animaux et quel est l'impact sur l'environnement, sur la population, sur le coût pour vous et pour moi, le fermier qui doit investir $1 million. Et ne parlons pas de façon défensive, mais de façon proactive. En général, les perceptions de l'agriculture se sont améliorées, mais il reste beaucoup de gains à faire. Il faut avoir une conversation avant qu'il n'y ait une crise. La crédibilité des agriculteurs, des vétérinaires et des chercheurs, beaucoup d'entre vous sont ici, merci, et cette crédibilité est très élevée. C'est là où notre industrie a la possibilité de dépenser des ressources pour promouvoir ces personnes-là auprès du public. Le public ne s'y connaît pas en agriculture, mais ils ont quand même des opinions, tout comme vous et moi. Donc, en 1931, le couple à gauche, ce sont mes grands-parents. Combien de gens sont allés à l'aéroport de Toronto? Dixon Road, ce sont les Dixons, mon arrière-grand-père. Ils avaient une ferme sur la rue Dixon, près de l'aéroport. Je n'en ai pas eu une scène, mais c'était les Dixons en 1931. Et en 2013, le gothique canadien et les agriculteurs qui ont des téléphones intelligents et des GPS sur leurs tracteurs. 10 millions versus 33 millions. 205 000 exploitations maintenant seulement. On ne peut pas encore se diviser entre nous. Nous devons avoir une voix collective. Combien de gens jouent à ce jeu Farmville et qui veulent l'admettre? Moi, je ne joue pas à ce jeu, mais je comprends les messages. Un tel a trop de fertilisants. Alors, quelqu'un vient d'avoir un pingouin. C'est ridicule. 39 millions de personnes C'est plus que notre population ont aimé ce jeu Farmville. Est-ce que vous avez déjà vu une ferme comme ça? Ils ont des pingouins, ils donnent de l'engrais. Et combien d'entre vous aimaient ce Farmville? C'est la plus grande exploitation avicole en Ontario. Et j'ai eu une entrevue avec un journaliste sur une ferme de l'autre côté de la route. Nous parlions des porcs et du bœuf et nous avions une bonne conversation. C'était un gars de Toronto. Il disait, mais qu'en est-il des fermes genre usine? Alors, il dit, où sont-elles ces fermes usines? Je lui dis, c'est une ferme traditionnelle, deux générations. Ils avaient du bœuf et du porc. Et j'ai pointé à cette ferme. J'ai dit que c'est la plus grande ferme qui élève du poulet en Ontario. Et il dit, non, non, c'est pas ça que je veux dire. Il dit, ah, les fermes usines. Et je lui ai dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. J'ai dit, c'est une grande exploitation. Il y a un père et trois fils et ils sont là. Ils soutiennent quatre familles. Et ça dépend de leur poulet. Et 25 oiseaux, ça ne va pas pouvoir marcher. Ça ne va pas pouvoir soutenir quatre familles aujourd'hui. Donc, c'est une grande exploitation professionnelle. Et j'ai dit, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Il m'a dit, on ne peut pas les cacher, ces usines. Ils ne sont pas cachés derrière un vallon. Alors, il n'a pas fait une histoire, ce journaliste, sur les fermes-usines. Mais je pose toujours des questions.
C'est facile de parler, il faut augmenter le volume sur les bonnes nouvelles. On a fait un sondage des producteurs ontariens. On n'a pas encore fait connaître notre attitude, mais on a demandé aux producteurs qu'est-ce qu'ils pensent du bien-être animal. On parle souvent avec le grand public, alors on s'est dit on va parler de façon beaucoup plus valable du point de vue scientifique. Alors on a travaillé avec nos partenaires de Homofrère et on a fait le sondage encore une fois avec Cipsos, un sondage de nos producteurs. Il y avait des choses très intéressantes à dire, entre autres la première menace par rapport à l'être au bien-être animal, c'était l'intervention des tiers, de la part des gens qui ne comprennent pas l'agriculture. Alors, j'ai pris ça au sérieux. Du côté positif, ils ont dit que la première occasion, c'était de parler avec le grand public des choses positives dans le bien-être animal. Je sais que beaucoup de producteurs sont de bons amis et ma propre famille est là. Je pense qu'on maltraite un peu les agriculteurs par rapport au bien-être animal. On dit qu'on devrait faire ci ou cela. Et il y a des gens. Alors, les gens se mettent à l'offensive et on dit aussi qu'on fait beaucoup de bien sans que les gens s'en rendent compte. Comme Jeff a dit, s'il y a du sang, ça va faire la manchette. Alors, on ne voit pas à la manchette les gens qui produisent des aliments 365 jours par année. Vous avez tous un rôle à jouer. Il faut en parler. Il y a beaucoup de ressources et d'occasions. Parler avec une personne. À la fois, nous avons un livre qui s'appelle « The Real Dirt on Farming ». Nous voulons avoir une version plus complète. 150 000 personnes ont fait des visites virtuelles, mais ça ressemble pas à Farmville. On a fait, la, une promotion transparente. Il y a les ferme 2, c'est le Cadillac du projet. On voit toutes sortes de productions 2 et vous pouvez choisir ce que vous voulez voir à l'intérieur. Alors, notre défi est de combler les fossés, de parler avec les gens qui s'intéressent à l'origine de leur nourriture et comprendre le public. Ces personnes n'ont jamais allé dans un poulailler ou jamais vu un porc qui mord dans un panier et qui tue son propre son propre porcelet. C'est important de parler du contexte. Il faut continuer à faire ce qui est correct. Les personnes qui sont ici peuvent le faire. C'est pas un exercice en relations publiques. On va faire une annonce pour résoudre le problème. Non, on veut vraiment faire ce qui est correct et ensuite on en parle. J'ai parlé du bien-être animal avec le grand public depuis longtemps dans des conversations individuelles et maintenant, il y a beaucoup de discussions en ligne et les gens s'intéressent énormément à l'origine de leurs aliments et je pense que c'est une occasion énorme. Je veux remercier tous d'être présents. Il y a beaucoup de nouveaux qui sont ici aussi. On peut sortir du domaine universitaire où beaucoup de ces conversations ont commencé et aussi les médias où il doit y avoir une victime et un méchant et pour avoir une conversation avec les personnes moyennes qui s'alimentent et ne veulent pas sentir de culpabilité. Merci.